j'avais très hâte de recevoir notre prochain invité parce que il y a toutes sortes d'organismes qui sont qui viennent en aide ou qui plutôt vont récolter des sous pour la prévention, la recherche sur le cancer entre autres et différentes maladies. Mais il y a des gens qui sont atteints de ces maladies-là qui ont besoin d'un coup de main aussi, besoin d'aide. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que notre invité, lui qui est survivant à deux cancers de la prostate et du pancréas, membre de l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer, il est en studio avec nous, Monsieur Michel Létourneau. Monsieur Létourneau, bienvenue dans Du Pôle Matin.
Ben, bonjour.
Content
très heureux d'être là aussi.
Ben oui, survivant de deux cancers.
Ouais.
Ça a pas été facile.
Non.
Ça commence à quel âge cette histoire-là?
Ça a commencé il y a 2-3 ans. On va dire 3 ans, on va arrondir. Je vais faire la version courte là. Le premier cancer qui était la prostate a permis de détecter l'autre. Donc il y en a un qui m'a sauvé la vie finalement. Mais là tu t'embarques dans quelque chose. Là, la vie change. D'abord il y a diagnostic qui arrive, ça prend du temps, il y a des tests, ils sont pas sûrs, ils sont contents, ils t'encouragent, puis à un moment donné, bang, ça tombe. Maintenant, voici le protocole, on t'opère, on sait pas trop ce qu'on va faire avec. Puis évidemment, moi, quand je parlais à très peu de personnes au début du pancréas, les gens te regardent comme si t'es mort. Alors, t'arrêtes de le dire.
Je viens d'avoir ce réflexe-là avec un de mes amis.
Tu le gardes pour toi parce que dans les yeux des autres, t'es déjà mort. Mm-hmm. Alors moi, comme j'avais déjà un cancer de la prostate, je disais j'avais un cancer de la prostate, puis là, le monde, ah, oh, c'est pas grave, ça. T'sais, alors, j'ai longtemps menti, en fait, parce que j'avais une entreprise, je pouvais pas le dire à mes clients. T'sais, à un moment donné, t'es pris avec toutes sortes de considérants, dont le principal, et je vais-tu mourir de ça? Les statistiques sont contre moi. Alors, tu as un choix. Tu crois ton oncologue ou tu y crois pas. Hein? Alors, il te propose un protocole. Tu dis, OK, je suis opéré. Au bout d'un mois et demi, tu reçois tes tests de pathologie. Là, tu comprends que tu es chanceux parce que c'est stade 1, grade 1. Tu es dans le meilleur corps qui va probablement s'en sortir. Tu ne sais pas trop.
Mais est-ce que votre oncologue, c'est ça aussi, là? Est-ce que votre oncologue vous donne l'heure juste des chances de... Parce que là, vous, ce que je comprends, là, parce que oui, le cancer du pancréas, moi, je me souviens de la dispute avec Claude Béchard, qui est décédé de
oui,
ça.
Bien sûr, okay.
Mais à sa première...
Mon neveu.
Ah oui, OK. Oui. Mais moi, Claude, là, la première étape, je me souviens, là, j'avais dit, tu sais, moi, il n'y a rien que 5% des chances.
Oui.
De guérison. Il dit, pourquoi ça serait pas moi le 5%?
Exactement.
Et il avait été, il avait eu connu un bon bout après ça, là, il était revenu. Ouais. C'était à la récidive que c'était plus difficile.
Ouais.
Donc, vous, le fait que le cancer de la prostate amène des études plus approfondies...
Ben, c'est que quand c'est un premier cancer, il te passe une batterie de tests pour voir si t'as pas déjà des métastases. Alors là, je vais vous faire le hein? On parlera pas de tous ces tests-là. Puis à un moment donné, il y en a un qui m'ont dit, ben écoute, bonne nouvelle, Michel, t'as aucun machin, mais on a une petite masse suspecte au pancréas.
Que normalement, on n'aurait jamais vu, là, si ça n'avait pas...
On n'aurait jamais vu. Ben non, on n'aurait jamais vu. Puis si on fait référence à Claude de mémoire, Claude, quand il a consulté, il était malade depuis un certain temps.
Oui.
Donc, il était trop tard.
Puis parce qu'il était assez jeune aussi, quand c'est arrivé.
Il était jeune, il avait à peine 40 ans.
C'est ça,
début
c'est
de quarantaine. Alors que moi, ben le c'est vrai que les pronostics étaient meilleurs, mais ils étaient meilleurs de 5 à 12% ou 15%.
Okay.
Mais il y a une chose qu'on comprend quand on a ça, c'est que chaque cas est unique. Tu sais plus trop pourquoi il y en a qui meurent au bout d'un an ou deux ans, puis que toi, t'es encore là. T'sais, ça, t'apprends à vivre avec ça. Et si on parle de l'OCPAC est là pour ça. C'est un service essentiel qui aide les personnes atteintes, mais t'es jamais tout seul quand t'as le cancer. T'as une blonde, un conjoint, une conjointe, une famille, des clients dans mon cas. Mais tes proches aidants, là, ma conjointe, là, quand on a eu la nouvelle, là, notre vie a changé. Là. C'est clair que notre vie a changé. Heureusement, ça a bien été pour moi. Mais moi, j'ai eu la totale après ça, quand ma pathologie est arrivée, puis que t'as des bonnes nouvelles, il me dit, mais par ailleurs, on va faire 6 mois de chimio, Michel.
Ça, c'est difficile.
On va faire 6 mois de chimio, mais pourquoi? Tu me dis tout ça parce que tu vas me donner un an de plus à vivre ou bien si... Non, 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 on s'en va vers une guérison. Là, tu le regardes, tu te dis « Bullshit ».
Mais oui.
Pas, tu sais. Alors, mais à un moment donné, c'est ça. Tu fais le choix de croire ton oncologue ou de pas le croire. Et puis, OK, fait que j'ai fait mes 6 mois de chimio. avec tout ce qu'on peut imaginer. J'ai été chanceux. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires, sauf qu'au bout de 6 mois, j'étais à terre. J'avais la batterie finie, bien sûr. Et après, on a traité mon deuxième cancer. Ça fait qu'au fond, toute cette année et demie-là, j'ai continué à travailler quand même. Puis là, la pandémie qui s'est mise là-dessus. Donc, tous mes traitements, moi, j'avais personne m'accompagner. J'étais tout seul.
OK, c'est ça. C'est encore plus difficile.
Ben,
ou...
ta blonde ne vient pas. Tes chums ne t'accompagnent pas. Puis, tu sais, la chimio, ça dure 6 heures. Là, t'es là, là. Puis, t'attends. Puis, ben, c'est correct. On peut Netflix. Puis, mais, tu sais. Puis, heureusement, je dis heureusement. Je travaillais déjà à l'OCPAC dans le sens que je les aidais au plan des communications parce que j'avais des amis qui y travaillaient puis qui m'avaient demandé un petit coup de pouce. Alors, j'étais sensibilisé à ce que l'OCPAC faisait. Mais t'as besoin de parler, pas juste à ta conjointe, t'as besoin de parler à quelqu'un de neutre qui est pas ton médecin.
Et c'est ça qu'ils font, l'OCPAC.
C'est exactement ce qu'on fait. C'est ça le service essentiel de l'OCPAC, c'est qu'on aide les personnes atteintes, les personnes qui les entourent aussi. Puis il y a des programmes, dont celui de cancer transition, parce qu'une fois que t'as passé par toutes ces étapes-là et que t'es sur le chemin de la guérison, tu dois réapprendre à vivre comme si tu n'avais pas eu le cancer, mais tu l'as quand même. Alors ça pose un certain nombre de problèmes de couple, je dirais, parce que moi, ma blonde pensait que j'étais guéri, jusqu'à ce qu'elle se rende compte, parce qu'on avait un psychologue qui nous suivait, assez fait dire par le psychologue, non, lui, là, on sait tous qu'on va mourir, hein, mais il y en a qui le savent plus que d'autres. Moi, je fais partie de ceux qui le savent plus que d'autres, puis...
Mais ça change la vie, ça.
Ben, ça change la vie parce qu'à chaque 6 mois, tu passes des tests puis tu attends le résultat. Puis, OK, c'est correct. Moi, j'ai 2 ans et demi de fête. J'ai un ami qui a 4 ans de fête. Et quand j'ai eu 2 ans de fête, mon oncologue a dit, ben, écoute, première étape de franchie parce que d'habitude, les récidives, c'est dans les 2 premières années.
Mais l'inquiétude demeure.
Mais là, ben oui. Tu vis, tu sais, je vous dis pas que je pense à ça tous les jours, que je vais mourir. Mais. De temps en temps, le petit hamster réveille à 4 heures du matin, puis tu sais, là, je tombe dans le trou. Puis je me dis, garde, j'ai une bonne étoile, puis je suis en pleine santé maintenant, j'ai tout perdu mes cheveux, tu sais, tu passes par tout ça, puis là, tu reviens. Puis... Mais les gens, quand je dis que j'ai eu 2 cancers, ils me regardent, ils me disent, t'as pas l'air de quelqu'un. Mais non, c'est pas, on n'a pas ça écrit dans
non,
la
c'est
face,
pas écrit.
Là. Non, pas du
tout. Vous aviez, sans indiscrétion, vous avez quel âge actuellement?
J'ai 70 ans.
70 ans, ouais. Okay, donc ça commence à la fin soixantaine.
Oui, oui.
Et ça avance.
Mais il n'y a pas d'âge pour le cancer.
Non, c'est ça.
Il
hein.
y a beaucoup de jeunes aussi, de plus en plus d'ailleurs. Et c'est pour ça que même à l'OCPAC, il y a un groupe spécialisé là, dans les plus jeunes, parce que quand t'es plus jeune, c'est il y a quelque chose d'absurde. T'sais. Moi, à la limite, puis là, je viens de perdre un ami qui avait 75 ans. Tu sais, sur ces derniers jours, il me disait, ben, tu sais, je suis rendu à 75 ans, ma vie est faite, là, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. On peut toujours bien se dire ça, mais en même temps, tu sais, on n'a jamais 70 ans dans notre tête, mm-hmm. on n'a jamais 60 ans dans notre tête, puis...
Je le comprends, je me dis la même affaire à 53.
Oui, c'est ça, à 53.
J'ai tout le temps 22,
là,
moi.
C'était petit jeune, ça, 53.
Mais... Ben, je le sais, mais moi, je vois pas ça de même. C'est pour ça que je me dis que j'ai 22, là.
Non, puis tu sais, des fois, le corps nous rappelle qu'on a l'âge qu'on a, là.
Je sais pas.
Ah, je sais pas, oui. Ben, moi, je continue d'aller au gym, là, quand okay. même. T'sais. Mais là, la pandémie a tellement changé d'affaires dans la vie de tout le monde. Alors, ouais, tu sais, c'est ça.
Vous avez parlé des choses que vous ne dites pas nécessairement à votre conjointe, mais dont vous pouvez parler à l'OCPAC.
Oui.
Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on ne dit pas à son conjoint ou sa conjointe?
La peur de mourir. Tu veux pas voir ça dans les yeux de ta conjointe. Tu peux pas voir ça. Parce que tu vis quotidiennement avec ta conjointe. Alors, tu peux en parler à quelqu'un de neutre, tu sais. Puis il y a des psychologues à l'OCPAC qui t'écoutent. Puis, mais il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est que la plupart des gens qui travaillent à l'OCPAC ont eu un épisode de cancer. Donc, ils savent de quoi ils parlent aussi. Ils ont une sensibilité particulière. C'est pas juste des psychologues, là. C'est des psychologues qui ont le cancer métastasique, qui sont stables, puis qui, c'est devenu une maladie chronique aussi, le cancer. Mm-hmm. T'as une récidive, t'as un traitement, tu t'en sors. Il y en a que ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Fait que c'est un service téléphonique. Parce que moi, là, je connaissais pas du tout l'organisme. Donc, quand tu passes par là, puis t'es désemparé, puis que tu te gardes une certaine retenue à la maison... Donc, c'est un service surtout téléphonique?
Ben, tu peux y aller téléphonique. Okay. Il y a des services, c'est-à-dire des services en présentiel aussi. Là, ben, là, avec la pandémie, oui, non, peut-être. Là, on est dans le oui en ce moment. C'est possible. Tu peux avoir surtout des, en présentiel, il y a des groupes de discussion de gens qui vivent la même chose que toi et qui sont pas tes proches. Alors, ça, là aussi, c'est un peu comme les AA, dans le fond. Tu confies des choses à ces gens-là que tu dis pas à tes proches, nécessairement, toutes.
Puis c'est de se raccrocher à quelqu'un qui, lui, survit aussi au cancer, puis qui l'a eu avant toi un
parce
peu.
Parce que moi, mon parrain, que je l'appelle, lui, il a 4 ans de fête. Alors, on se parle à chaque fois qu'on a nos tests, puis toi, comment ça va? Puis moi, au début, quand j'étais en traitement, puis que j'avais peur, mais je l'appelais, puis il me disait, ben garde. C'est possible. Puis c'est vrai que c'est possible de survivre. Puis il y a une vie après le cancer aussi. C'est vrai aussi, ça. Mais, alors donc, l'OCPAC, c'est ça qu'on fait. T'sais. C'est sûr qu'il y a plein d'organismes, et comme tu le disais au début, qui sont là pour que financer la recherche, qui est extrêmement important. Mais de s'occuper de ceux qui ont le cancer et de leurs proches, ça aussi, c'est important.
Je regardais dans ce que les notes que Karen m'a fournies, vous avez encore des rêves, comme d'aller au Vietnam. Vous aviez plusieurs démarche d'entreprise, ça me fait drôle de dire pourquoi à 70 ans, là, votre santé va très bien, pourquoi pas partir demain? Comment on garde cet objectif-là d'aller au Vietnam? Vous voyez ça comment devant vous, l'avenir?
Ben moi, c'est évidemment, peut-être que je suis un peu naïf, mais il y a une chose que ma mère, qui est morte à 97 ans, m'a toujours apprise par son exemple, c'est faut demeurer du côté des vivants. Donc, faut garder des rêves, faut avoir des projets. Mm-hmm. J'en ai avec ma conjointe qui déteste prendre l'avion, donc c'est sûr qu'elle viendra pas au Vietnam. Hein? Mais moi, j'ai envie d'y aller. Avec mon podiatre qui a formé une association qui est les podiatres sans frontières, un peu comme les médecins sans frontières. Et puis lui, c'est un Vietnamien. Puis là, j'ai dit, Thiam, la prochaine fois, je vais avec toi, je porte les valises.
Okay.
Puis il m'a dit, OK, c'est parfait. Fait que là, j'attends que la mission reprenne. Évidemment, la pandémie a fait qu'il n'y en a pas eu. Moi, j'étais malade, puis il y avait la pandémie. Mais quand tout ça va être un peu plus clair, bien sûr que j'ai envie d'aller au Vietnam. Bien sûr que j'ai envie de continuer à travailler. Bien sûr que j'ai envie d'aller passer 2 mois dans le sud l'hiver prochain, parce que ma blonde va être à sa retraite. Oui, tout en continuant à travailler, à vivre, avoir des projets. Écoutez, moi, je suis un ancien musicien professionnel qui a bifurqué en administration, toujours dans le milieu culturel, dont le festival d'été puis tout ça. Et j'ai recommencé à jouer du drum. Tous les lundis, je vais en studio. J'ai un prof une fois par mois. J'essaie de reprendre ma shape.
Des activités, puis...
Juste pour le plaisir. Puis j'ai mon petit pad de pratique au bureau. Fait quand je suis tanné d'écrire puis de rédiger mes rapports,
un petit peu de drum on the side.
La vie continue, en fait. Mais il y a certains soirs où le petit hamster se réveille, il vient de chatouiller le bout des pieds.
Lui aussi, joue du drum.
Oui, il joue du drum dans ta tête, mais lui, il joue pas des belles tunes.
Est-ce que, mettons, au début, puis tout ça, là, est-ce que ça vous empêche de dormir? Est-ce qu'en plus des fois de nous affaiblir physiquement, si ça vient nous déranger psychologiquement, ben là, on dort plus. Si on dort plus, ben, ça devient encore plus difficile, ou ça a bien été?
Ben, non. Non, ça n'a pas bien été.
OK.
Le hamster était plus présent au début, bien évidemment, parce que tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Au début, là, tu es complètement démuni. Et tu es devant, dans mon cas, devant un cancer qui est considéré comme le pire que tu ne peux pas avoir. Puis tant que tu n'as pas des bonnes nouvelles, tu es là, tu es opéré, tu es déjà à moitié mort, puis tu ne dors pas, tu passes des nuits blanches, bien souvent, puis... T'as beau essayer de penser à d'autres choses, tu penses à ça, tu le sais pas. T'es toujours devant l'inconnu. T'es toujours devant un mur, en fait. Au début, c'est pire. Maintenant, c'est beaucoup moins pire. Mais quand on vit cette période intense là, qui dure un an ou deux, là, puis c'est là que t'as besoin d'aide, en fait.
Est-ce que on se pose vraiment la question à savoir... Je me suis toujours demandé ça, moi, parce que je suis pas sûr que je prendrais toujours la même décision que tout le monde. Est-ce qu'on vraiment, on se pose la question à savoir, OK, je veux profiter de la vie au maximum dans le temps qui me reste, plutôt que passer le temps qui me reste à essayer de me battre pour étirer le temps qui me reste. Comprenez?
Oui, je comprends. Mais ça, c'est personnel à chacun, puis ça dépend comment tu te sens aussi. Comment, tu sais, moi, je me sens là en pleine forme, et c'est pour ça que je peux, mettons, me payer le luxe de dire, je vais avoir encore des projets qui m'obligent d'être mobile, d'être en forme, puis tout ça. Mais ceci dit, quand tu te fais proposer des protocoles de traitement, tu veux bien t'assurer que tu ne passes pas à travers l'enfer pour 6 mois de plus. Ouais. Là, ça, ce deal-là, puis là, je me souviens très bien d'une fois où on a eu des consultations, ma conjointe était là. Quand ça a été fini, j'ai rappelé, seul à seul avec l'oncologue, j'ai dit, tu me bullshit pas, je ferai pas tout ça pour 6 mois de plus. Non, non, non. Puis là, là tu as une vraie discussion. Mais tu as une vraie discussion avec un oncologue qui parle un langage que tu ne connais pas. Tu n'es pas dans ta zone de confort. Tu ne comprends pas tout. Puis tu essayes, puis tu poses des questions. Vous savez, vous êtes des journalistes. Tu essayes de faire sortir le jus. Tu essayes de le mettre dans ses propres contradictions. Lui, il veut te guérir. Il est payé pour te guérir. Puis il veut te guérir, mais à un moment donné, tu dis, oui, mais dis-moi quel prix.
À quel prix?
Je vais devoir payer à quel prix. Puis moi, j'ai pris la décision d'y aller parce qu'il y avait des chances réelles. Puis j'étais comme Claude Béchard. Je pense que je fais partie du maintenant des 20%.
Ben, tant mieux.
Que dire de plus?
Donc, si on parle de la vraie vie, M. Letourneau, vous regardez la possibilité, l'aide médicale à mourir, puis tout ça, c'est venu dans vos discussions, j'imagine.
Bien sûr.
Tu sais, t'as pas le choix rendu où vous
Bien
êtes
sûr,
là.
Absolument. Et puis si j'avais... Je sais une chose, par contre, c'est que le cancer du pancréas ne donne pas deux chances. Quand c'est une récidive, t'es en palliatif. C'est là que tu décides.
C'est ça.
Tant que je vais bien aller, ça va être correct, puis peut-être qu'à un moment donné, il y aura ça. Mais tant mieux si ça existe. Puis moi, j'ai des amis que j'ai accompagnés dans la mort, puis qui l'ont demandé, mm-hmm. puis j'ai trouvé que c'était très correct,
serein.
Ah, oui. Il t'endorme, tu sais. Je me suis fait opérer deux fois, j'ai été endormi, j'aurais pu pas me réveiller. Ah, ouais. Tant mieux si ça existe, ça, mais c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. OK, je ferme la lumière.
Non, c'est ça.
Puis t'es pas tout seul à fermer la lumière. T'as une conjointe, t'as des enfants, t'as des petits-enfants. T'sais, là,
t'as un impact sur beaucoup de monde.
Oui, tout à fait, tout à fait. Pour revenir à LOCPAC, ben LOCPAC aussi aide tout le monde. Ouais. Je veux dire, les gens qui sont des accompagnateurs, qui ne comprennent pas l'état de fatigue de leur conjoint, de leur conjointe, qui ne comprennent pas qu'ils sont malades, puis qui comprennent pas aussi que si tu vis dorénavant avec une personne qui sait pertinemment qu'elle est en sursis.
Ouais.
Ça peut durer 10 ans, ça peut durer 2 mois, peut-être que l'année prochaine, vous allez annoncer que je suis mort. Je ne sais pas ça, mais comme je le répète, là, ça arrive une fois par mois que mon petit hamster me le rappelle.
OK. Comment ça fonctionne? Deux affaires. Comment on peut aider l'Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer et comment on peut les contacter si on a besoin d'aide?
Ben, je pense que là, j'ai pas le numéro de téléphone, mais locpac.ca, c'est déjà notre site web dans lequel vous retrouvez l'ensemble de nos services. Et puis là, il y a un numéro de téléphone dans le bout.
Non, non, mais c'est bien correct. Avec le site Internet.
Puis on peut devenir membre de LOCPAC. Ça coûte 15 $ par année. On peut aussi faire un don si vous voulez. Vous pouvez nous coucher sur le testament, comme on le fait, les dons planifiés. Vous pouvez décider qu'en mourant, vous laissez 2 000 à LOCPAC ou 5 000 ou 10 000, peu importe. On commence à en avoir parce que c'est un travail qui est fait à l'interne par notre directeur général puis les bénévoles. Nous aussi, au conseil, on essaie d'aider le mieux possible en termes de financement, rencontrer les gens du milieu parce que, bon, LOCPAC, c'est la région 03. Alors, cette année, on a le soutien de quelques grandes entreprises comptables et d'avocats qui nous donnent des dons relativement substantiels. Et on vit de ça, plus une subvention du CIUS de la capitale.
National, qui est
C'est ça. Alors, c'est un petit budget, c'est une petite entreprise, mais elle a une très grande agilité. Quand on fait appel à LOCPAC et on est en crise, on n'a pas un rendez-vous dans 3 mois, on l'a dans 1, 2 ou 3 jours.
Puis ça se passe assez rapidement.
Ça se passe rapidement. On peut aller là, on peut discuter, s'inscrire à divers programmes qui sont offerts, incluant toute la brochette de services, la sophrologie, le yoga, tout ce qui peut nous ramener à se détendre un peu le gros nerf, parce qu'on est un petit peu sur le gros nerf quand on a ça.
C'est même. Bon.
C'est le 418-529-1425. 529-1425, si vous avez besoin de leur parler ou encore pour faire un don.
Et l'adresse OCPAC, OQPAC.ca
voilà,
pour le site Internet.
Puis j'ai juste une chose que j'aimerais dire à ceux et celles qui nous écoutent. Diagnostic précoce, c'est le premier. Fait qu'allez passer vos petits tests, là, une fois ou deux par année, parce que c'est ça qui se passe. C'est plus...
On commence ça à quel âge, hein?
Oh, il n'y a pas d'âge pour ça.
Non,
non, non. Non,
53, c'est trop jeune.
C'est ce qu'on appelle le petit check-up.
Ah ouais?
Stéphane, allez passer. Non, non, mais c'est parce que le diagnostic précoce, c'est 50% de la réussite.
C'est là que ça se joue beaucoup.
C'est là que ça se joue. Puis gardez espoir parce que ça se peut qu'on ne meure pas de ça.
Et gardez des rêves. Moi, c'est ce que je retiens de votre visite.
Gardez des rêves,
de
gardez-vous des projets, restez du côté des vivants. La semaine avant la mort de ma mère, elle m'avait invité à dîner, hein, parce que j'ai eu la chance de l'avoir pleinement lucide et tout ça.
C'était-tu ici à Québec?
Oui, oui, c'est Québec.
J'avais Vous avez resté condo, à Québec longtemps?
Ben, moi, j'ai été 35 ans à Québec, okay. De 84 à 2012, en fait, j'étais à Québec. Puis quand j'ai été nommé à Montréal, ben, je suis déménagé à Montréal l'année suivante. Mais, donc, ma mère avait des projets, avait 96 ans, puis avait des projets pour l'été d'après.
Ah oui?
Oui, puis je me disais, mon doux, qu'elle est formidable, cette femme-là, tu sais. Bon, puis la semaine d'après, elle était morte, mais elle avait des projets. C'est que elle est toujours restée avec toute sa tête et tout ça. Alors, il n'y a pas d'âge pour ça. Je veux dire, l'espoir, c'est ce qui mène le monde, que ce soit à cause du cancer, que ce soit à cause de la guerre qu'on vit en ce moment. Il faut garder espoir que dans chaque homme et dans chaque femme, il y a quelque chose de bon quand même.
Merci beaucoup, M. Letourneau. C'est très apprécié, votre visite.
Plaisir.
Michel Letourneau est membre du conseil d'administration de l'Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer. On vient dans un instant, bougez pas.